Attends, on va te donner le micro.
Catherine Veillère, Académie de Toulouse et Montpellier. J'ai deux questions. La première, pourquoi vous n'avez pas signé de partenariat avec le ministère de l'Éducation nationale? Parce que ça nous facilite les choses en académie. Et la deuxième, c'est où allez-vous? Parce que moi, je n'avais jamais entendu parler de vous, alors que j'ai travaillé avec l'Association française des banques, à travers des comités des banques dans mes deux académies.
Je voudrais répondre quand même concernant, si vous voulez, l'Institut pour l'éducation financière du public, comme l'a rappelé Pascal Micolo-Marcel, c'est quand même une création récente, même si c'était en gestation depuis 2004, ça ne date que de 2006. Le site a été ouvert seulement en juin 2007, donc nous sommes en phase, comme on dit aujourd'hui, d'implémentation, c'est-à-dire que, comme je vous l'ai indiqué, nous sommes en train de construire les choses, donc comme nous voulons... bien sûr, aller vite, mais ne pas non plus louper l'objectif. Encore une fois, nous pensons qu'il sera possible de signer cette convention de partenariat qui obéit aussi à des règles juridiques. Le ministère, lorsqu'il s'engage, il ne le fait pas à la légère. Donc, ça obéit à des règles à la fois juridiques et pas simplement sur le fond, sur l'intérêt de l'opération. Et donc, pour le faire, il faut que nos matériaux soient crédibles, parce que, bien évidemment, sinon, on ne nous prendra pas au sérieux. Donc, les choses, encore une fois, j'en ai énuméré quelques-unes, sont en voie de constitution. J'ai ici, par exemple, les programmes pour une éducation financière à l'école. J'ai les tableaux de correspondance. Je ne les ai pas montrés par des slides, comme on le dit. Mais tout simplement parce que nous tenons à réserver la primeur, bien évidemment, dans ce cadre, je dirais, au ministre et à son cabinet. Une fois que les choses seront faites, comme je l'ai dit, l'intérêt, c'est la labellisation des produits. L'intérêt, c'est l'appui par les réseaux éducation nationale. La possibilité donc de profiter de toute la structure EN pour une diffusion. Alors dans ma frénésie, j'oublie la deuxième question. Alors pourquoi c'est pas connu? Alors je pense que Catherine. Alors ben pour l'instant, nous avons, comme on l'a dit, comme on a lancé un peu l'opération l'an dernier, encore une fois, je l'ai dit tout à l'heure, c'était un prototype, c'est une année zéro, on teste un petit peu l'opération pour l'UFP. Sur finance et pédagogie, là, je ne peux pas répondre parce que, comme vous l'avez bien vu, ce n'est pas exactement le même organisme.
Je réponds. Pourquoi finance et pédagogie? Alors, pourquoi nous n'avons pas signé? Je pense que Bernard Simler l'a un petit peu... Pardon? Voilà. Il y a une chose qui est importante, c'est qu'en fait, nous n'avons pas fait, en ce qui nous concerne non plus, de finance et pédagogie, une priorité absolue non plus de l'éducation financière à l'école. C'est-à-dire qu'en ce qui nous concerne, c'est une de nos activités, mais c'est vrai que l'éducation financière, c'est d'abord aussi l'éducation financière du grand public. Et c'est vrai que nous travaillons beaucoup avec le monde de l'économie sociale, avec le monde des travailleurs sociaux, avec notamment les instituts qui sont les instituts de travailleurs sociaux. Et c'est vrai que si nous n'avons pas signé un partenariat avec le ministère de l'Éducation nationale, c'est parce que c'est pas toujours facile non plus de signer un partenariat avec l'Éducation nationale. En revanche, dans les régions, il y a beaucoup de partenariats qui ont été faits avec les rectorats, avec les académies. J'y étais, pour exemple, j'étais encore le 21 octobre avec l'académie d'Amiens, où ils organisaient une grande journée sur la mobilité des jeunes et avec la présidence de l'Union européenne française. Cette journée, ça m'a permis de présenter bien évidemment ce que nous faisons, mais nous avons effectivement des partenariats, je dirais, plus de proximité, si vous voulez, avec des académies, avec notamment des établissements scolaires, mais surtout avec des académies. Alors si à Toulouse, nous n'en avons pas, on va rectifier le tir.
Oui, bonjour, je suis Patrick Haas, je suis directeur des publications économiques à la Banque de France, donc j'aimerais juste faire quelques remarques. La Banque de France est partenaire des journées de l'économie puisque nous considérons que c'est très important de développer la culture financière, mais au-delà, la culture de stabilité monétaire des Français. Nous sommes également, nous contribuons à l'IEFP. Je me permettrai de faire une petite remarque, très légèrement, une nuance que Madame Micolo-Marcel a dit que vous écrivez tout seul, en fait, l'argent pour les nuls, mais nous sommes contributeurs.
Nous avons des contributeurs, mais...
Je le sais. Bon. Je suis en retard.
Je remercie la Banque de France, sera évidemment citée, merci, comme tous les autres contributeurs, mais c'est un... C'est pas comme dans Autrement, où il y avait un auteur identifié qui n'était pas...
Je vous entends. Nous avons en fait une offre pédagogique qui est en fait... nous n'avons pas signé de partenariat avec le ministère de l'Éducation nationale, mais nous travaillons avec le ministère de l'Éducation nationale depuis une quinzaine d'années. Nous avons été très actifs lors du lancement et du passage à l'euro. Et je voulais juste faire un peu de publicité institutionnelle, puisque nos produits sont totalement neutres et totalement gratuits, totalement gracieux. Nous avons mis à disposition des enseignants en fait une vidéo qui s'appelle La monnaie et nous, qui est téléchargeable. Nous avons dans notre fichier, j'espère que beaucoup d'entre vous l'ont reçu, si vous ne l'avez pas reçu, eh bien contactez-moi, je vous donnerai mes coordonnées. Donc nous avons diffusé une vidéo qui s'appelle La monnaie et nous, visant en fait à développer une culture monétaire sur les programmes de sciences économiques premières, terminales et sciences techniques de gestion, qui était vue pour à peu près 400 000 élèves. Nous allons mettre également à disposition en fait, des notes d'information sur la crise financière. Et donc, je voulais signaler que sur notre site, nous avons des documents que nous espérons pédagogiques, certains sont assez techniques, sur les aspects stabilité monétaire et sur les aspects stabilité financière. Enfin, je rejoindrai tout à fait votre préoccupation en fait, sur la question du surendettement. Le surendettement est une activité qui occupe énormément en fait, notre institution, puisque nous recevons environ 180 000 dossiers par an. Nous avons très récemment publié une enquête typologique qui montre que le surendettement est un phénomène en forte croissance. Et donc nous partageons tout à fait votre souci et nous leur rendons hommage en fait, de prévention en la matière. Merci.
J'en ai deux. Merci. Alors d'abord, j'ai été très heureux d'apprendre que Citigroup s'était investi pour apprendre aux jeunes Américains à gérer l'épargne avec prudence et responsabilité. J'espère que ce n'est pas cet argent qui a mis le groupe au bord de la faillite. Je souhaiterais qu'on me rassure sur ce point.
Je n'attendais pas moins d'une première intervention d'Alain Bétane.
Alors, je voulais dire rapidement deux choses. La première, c'est que... il y a un débat, on a très peu de temps, hein, mais il y a un débat sur enseignement et discipline. Et ce que je voudrais dire comme contribution modeste à la réflexion, c'est qu'il faut garder à l'esprit que l'école est surchargée. Vous êtes convaincus de l'importance de l'éducation financière. Il y a des gens qui sont convaincus de l'importance de l'éducation nutritionnelle, sexuelle, routière, la prévention des risques, etc., etc. Et que du coup, tout cela a beaucoup de peine à trouver sa place. Et surtout, l'expérience montre qu'il y a beaucoup de peine à trouver sa place quand ce n'est pas à travers les disciplines telles qu'elles existent et qui ont commencé une grande inertie. D'où le fait, par exemple, que la place, par exemple, des sciences économiques et sociales ou de l'économie et gestion devrait préoccuper ceux qui souhaitent une diffusion accrue, mais je ne doute pas qu'elle les préoccupe. Alors, deuxième chose que je voudrais dire, c'est que... la dame, excusez-moi, j'ai oublié votre nom, qui représente finance et pédagogie, a employé à deux reprises le terme pratico-pratique. Alors je vais faire simpliste, toujours parce qu'on n'a pas de temps, mais disons qu'il y a toujours deux dimensions dans ces domaines. Il y a une dimension, je dirais, pratique, je ne dis pas pratico-pratique, seulement pratique. Alors cette dimension pratique, moi je la juge très importante. Quand on apprend que 30% des signataires des crédits subprime ne savaient pas ce que voulait dire taux variable, c'est un problème. Hein, voilà. Mais en même temps, il y a une éducation, je vais dire, pour faire vite, cognitive. C'est-à-dire où il s'agit de prendre un peu de recul, de réflexivité sur des enjeux qui sont de portée plus générale. Et donc la conférence qu'annonce Bernard Simler avec Michel Alietta, Christian Deboissieu et Christian Noyer, elle me paraît assez clairement du côté que j'appelle toujours pour faire vite, cognitif. Ce qui me réjouit, c'est que l'Institut d'éducation financière du public me semble essayer de tenir les deux bouts de la chaîne, hein, puisqu'on a vu des petits schémas pour l'école élémentaire où il s'agit de savoir combien il nous reste quand on a dépensé 12 euros. Mais il y a aussi un dossier que moi j'ai trouvé très riche et très intéressant sur la crise financière qui a été enrichi progressivement. Donc il y a les deux côtés. Je souhaiterais qu'on garde ça à l'esprit, parce que si on reste uniquement dans la dimension pratico-pratique et encore formé à des comportements, encore une fois, même si c'est important de prévenir le surendettement, voilà. Alors pourquoi j'insiste sur cette dimension réflexive ? Parce que la dimension réflexive, elle suppose aussi, de la part des professeurs, une dimension réflexive sur le contenu des outils qui leur sont proposés. Par exemple, moi j'aurais quelque chose à dire, si un jour j'en avais l'occasion, sur certains contenus des documents proposés par la Banque de France.
Bien, écoutez, je ne suis pas étonné de l'intervention d'Alain Bétone. Effectivement, le souci, c'est pour me répéter, le souci c'est bien ces deux dimensions. Je crois que ce serait une erreur, effectivement, de privilégier l'une par rapport à l'autre. Et dans l'optique de l'Institut pour l'éducation financière du public, il y a bien aussi une dimension pratique, hein, parce que c'est bien beau les réflexions un petit peu intellectuelles, mais il y a aussi des situations concrètes et où des personnes se trouvent totalement démunies par rapport à des choix, effectivement, qui sont liés à leur situation personnelle et qui les engagent sans trop savoir pourquoi, parfois. Et puis la dimension réflexive, car effectivement, tout ça s'insère dans un environnement beaucoup plus large et on ne peut bien comprendre le sens de ces actes que si on les relie, je dirais, à cette dimension-là. Donc c'est vraiment l'objectif de l'UFP. Et donc là-dessus, il n'y a pas d'ambiguïté. Il n'y a pas d'ambiguïté. D'autre part, concernant alors, les programmes, je réitère là aussi ce que j'ai dit, c'est un peu net pour enfoncer le clou. D'ailleurs, c'est pas neutre le fait d'avoir l'entrée par le socle de connaissances et de compétences. C'est-à-dire qu'on a bien compris, et parfois il y a des demandes effectivement multiples, l'éducation nationale est l'objet de demandes multiples, avec de bonnes raisons, mais on ne peut pas tout faire, et surtout on ne peut pas tout faire à tous les niveaux et à tout le moment. Par conséquent, il faut faire des choix. Le choix qui a été fait par le socle de connaissances et de compétences, c'est d'essayer de repérer ce que dans les disciplines il peut y avoir comme apport respectif aux différents niveaux, mais par contre de donner de la lisibilité, de donner de la visibilité, il y a bien une participation de l'ensemble des champs disciplinaires à cette éducation financière, mais elle n'apparaît pas toujours en tant que telle, et donc le travail qui est fait, c'est ce travail qui permet de dire que l'on fait de l'éducation financière, et on peut aller plus loin, nous avons des projets notamment d'intervention dans les centres de formation des enseignants, dans les IUFM, pour pouvoir éventuellement montrer comment éventuellement nos futurs collègues de mathématiques pourront faire de l'éducation financière également. Et d'ailleurs, on n'en a pas eu le temps, mais si vous allez sur le site, vous verrez, il y a des modules en mathématiques qui participent à l'éducation financière. Donc c'est bien l'optique que vient de souligner Alain Bétone, qui est celle que nous privilégions.
Je voudrais ajouter, pour répondre également à votre question, je la partage complètement, hein, bien évidemment. Je pense que plus il y aura d'acteurs ou plus il y aura d'opérateurs, si, finalement, sur le sujet, et mieux on trouvera effectivement tous les éléments du puzzle. En ce qui concerne finance et pédagogie, on ne peut pas tout faire. Hein, je veux dire, nous, on est une équipe d'un organisme qui est un organisme bancaire. Depuis un certain nombre d'années, on répond à un certain nombre de valeurs du groupe Caisse d'Épargne, on le fait gratuitement dans les écoles, donc on intervient sur le pratique. Et je pense que ce pratique, c'est celui-là qui doit être le complément, finalement, de ce que font aussi les professeurs dans le cadre de leurs cours, dans le cadre de leur apprentissage pédagogique. Mais je pense que, effectivement, plus il y aura d'acteurs qui arriveront, comme l'Institut pour l'éducation financière, qui arriveront à cumuler à la fois l'aspect plus scientifique, plus économique, d'une façon extrêmement circonstancielle, d'une façon extrêmement, beaucoup plus environnementale, ce que nous ne pouvons pas échapper dans le cadre de nos apprentissages pratiques, parce qu'on est obligé d'avoir une vision assez environnementale, mais c'est vrai que lorsque nous intervenons sur des sujets de réalité quotidienne.
Oui, juste sur Citigroup, comme vous avez pu observer, il s'agissait d'éduquer les clients, pas les banquiers. Voilà. Mais plus sérieusement, je pense qu'il y a... j'ai tendance à ne pas faire de ce sujet-là, c'est-à-dire l'éducation à l'argent, du rapport à l'argent, de quelque chose qui est à mettre au même niveau que tout ce que vous avez évoqué. J'ai cette tendance-là. Je renvoie quand même, par exemple, à un rapport récent du Conseil économique et social sur le surendettement, qui soulignait le fait que l'éducation à la consommation devrait être une matière obligatoire de l'enseignement. et que ça n'était pas le cas, que ça avait été même acté et que ça n'était pas du tout appliqué. Il me semble qu'il y a, sous le double angle que vous dites, je pense qu'il y a un sujet qui est peut-être pas complètement à mettre au même niveau que les autres sujets que vous avez évoqués. Je ne veux pas du tout minimiser l'éducation sexuelle, notamment. Mais j'ajoute un dernier point, c'est le sujet pédagogique. Je crois aussi que il y a quelque chose, y compris dans l'enseignement des autres matières, qui est que c'est quand même la voie d'une pédagogie concrète. J'ai personnellement travaillé avec les professeurs de maths sur les modules. L'un des enseignants mathématiques qui participait à ça anime, lui, un groupe qui s'appelle « Des maths pour mieux consommer ». Donc, il a cette dimension citoyenne. Et d'autre part, la préoccupation de « à quoi ça sert les mathématiques ?» est une voie d'entrée pédagogique. Et donc, le fait que les exemples, que les sujets sont des sujets extrêmement concrets, de la vie concrète, avec une grande préoccupation de choisir les bons chiffres, les bons, et de donner des exercices extrêmement concrets, c'est une entrée dans une pédagogie des mathématiques aussi. Peut-être ça l'est aussi pour l'économie. À quoi ça sert l'économie, l'apprentissage de l'économie, l'entrée par des cas concrets ou par des expériences de vie et des choses de ce genre? J'ai la faiblesse de penser que ça peut être aussi un apport pédagogique pour l'enseignement, y compris de l'économie.
Monsieur a une question. Oui, bonjour. Je voulais d'abord faire une première remarque sur le problème du vocabulaire. En tant qu'enseignant, on est confronté à une difficulté de ce côté. Des mots très simples pour nous, tels que taux d'intérêt et même financer, le verbe financer. Les élèves ne comprennent pas, même des élèves qui sont en première ne comprennent pas. Donc il faut faire un effort pédagogique extrêmement important de ce côté pour bien expliquer les mots. Je pense aussi aux mots action, aux mots obligation, par exemple. Les élèves ne voient absolument pas la différence. Donc, il y a un gros effort à faire de ce côté, notamment en termes de schéma, pour faire passer les notions pédagogiques. Deuxième problème, par quel canal ou par quel canal allez-vous faire le lien entre votre site et le monde de l'éducation, enfin les enseignants? Est-ce que, par exemple, vous envisagez de mettre sur tous les sites académiques, notamment je pense au site de sciences économiques et sociales, mettre un lien, faire un lien avec votre propre site? Parce que je suis allé sur votre site, moi j'ai trouvé remarquable, j'ai découvert il y a 8 jours, mais j'ai trouvé remarquable. Et puis alors, troisième remarque, enfin, c'est plutôt une question de finalité, est-ce que c'est pas un peu gênant que vous soyez piloté par l'AMF plutôt que par le ministère de l'économie et des finances, surtout en ce moment?
Alors, concernant le vocabulaire, je pense que vous avez raison, on se heurte là à une difficulté, et pas seulement les élèves, je dirais les citoyens en général sont éloignés du monde de la finance. Je pense que dans le résultat du sondage hier, bon, les mots qui font peur, on l'a vu, les mots comme bourse, comme action, bon, il y a dedans également certainement une méconnaissance profonde des vrais mécanismes qu'il y a derrière. C'est une des raisons pour laquelle nous avons introduit, dès l'enseignement primaire, un objectif modeste, bien évidemment, à ce niveau de formation, très modeste. Mais néanmoins, nous espérons mettre en place un continuum qui permettra progressivement d'acquérir ce type de vocabulaire. Le lien avec les sites académiques, justement, c'est des choses que nous pourrons intégrer dans la convention de partenariat le jour où elle sera signée par le ministre. Du moins, nous l'espérons et on a de fortes chances de l'avoir signée prochainement. Mais bon, encore une fois, on ne peut pas s'engager tant que ce n'est pas fait. Mais effectivement, on peut faire ce lien soit par les sites académiques, on peut faire le lien aussi par les sites DGESCO, hein, via EDUCNEC et du SCOL, enfin tout ce que vous connaissez peut-être, et qui permettent, dès lors que, encore une fois, la labellisation est faite, il n'y a plus de problème. Hein, il y a plus de problème. Sur le partenariat avec l'AMF, en ce qui me concerne, je vais laisser Pascal Micolo peut-être répondre, mais en ce qui me concerne, je pense qu'au contraire, c'est une bonne chose. Je rappelle que c'est une autorité indépendante et que c'est une des premières vocations de cette institution. Au contraire, c'est une garantie, c'est une protection. Encore une fois, il ne s'agit pas d'opposer l'AMF aux partenaires financiers, aux institutions financières, mais simplement, institutionnellement, on est, je dirais, dans une situation, dans un positionnement qui permet justement d'offrir une neutralité et donc une crédibilité à la fois au contenu et aux informations qu'on est amené à donner.
La question était juste par rapport au ministère des Finances, mais nous couvrons la transversalité, nous l'avons. D'abord, le ministère des Finances nous l'a soutenu et nous a donné une subvention la première année, donc on est tout à fait en phase avec le ministère des Finances. Et d'autre part, on a une transversalité au travers des autres régulateurs. Donc, en fait, on a des liens avec le ministère des Finances et on est sous la tutelle bienveillante, très, très lointaine, mais très bienveillante, non seulement de l'AMF, mais bientôt de l'Autorité des assurances et de la Banque de France, etc. Donc je crois qu'on obtient par ce moyen-là ce que vous souhaiteriez en disant qu'il faudrait qu'on soit rattaché au ministère des Finances. On n'a pas à défendre une politique, on n'a pas à faire l'apologie ni d'une politique, ni à la défendre. Ça garantit notre neutralité bien davantage, parce qu'en fait, étant associé à des régulateurs, on est plus neutre.
Bien, nous sommes obligés de conclure, on a légèrement débordé. Merci de votre attention, et j'espère que vous auriez la curiosité d'aller voir le site, et peut-être d'utiliser, mais j'en suis sûr, nos produits à titre divers. Merci à vous.